France Info.
Et bienvenue à tous dans l'émission politique de France Info, une demi-heure ensemble comme tous les matins avec Jean-Michel Apathy, bonjour.
Bonjour Fabienne.
Avec Guy Birenbaum et Gilles Bornstein, notre invité ce matin et député de Paris, soutien de Benoît Hamon.
Bonjour Cécile Duflo.
Bonjour Jean-Michel
Le
Apathy.
Le constructeur Renault est soupçonné d'avoir truqué certains de ses logiciels sur plusieurs modèles, ça vous surprend, ça vous inquiète ?
Ça me surprend pas parce que finalement il y a beaucoup de constructeurs, c'est pas le premier. Ça m'inquiète parce que quand on sait les conséquences de la pollution sur la santé et notamment des particules fines, on voit que plutôt que d'essayer de résoudre ce problème, on a cherché, y compris le constructeur français, à le cacher. Et c'est un drame parce que ça a des conséquences sur la santé et des conséquences qui sont avérées.
Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant avec Renault ? Est-ce qu'il faut aller au bout de l'enquête, faire la transparence au risque de déséquilibrer l'entreprise et de subir des conséquences économiques très désagréables ou est-ce qu'il faut gérer la situation différemment d'après vous ?
Moi je pense qu'il faut aller au bout. Il faut aller au bout pour une raison simple. La question qui est en jeu, c'est la question de la santé publique. C'est la question de ces milliers d'enfants qui ont des problèmes d'insuffisance respiratoire ou d'asthme. C'est ça la réalité. Et surtout, il faut emmener les constructeurs automobiles et en premier lieu les Français dans une nouvelle histoire, celle des véhicules propres, celle des véhicules autonomes, celle de l'autopartage. En fait, rester dans le diesel, c'est condamner les entreprises françaises.
Mais
c'est
si
ça,
on va au bout de cette histoire, au bout de la tricherie, Renault peut disparaître peut-être. On n'a peut-être pas les reins aussi solides que Volkswagen, qui est peut-être en passe de digérer une grosse amende aux États-Unis, mais Renault, si les plaintes s'accumulent, par exemple, peut être menacée jusqu'à son existence.
Oui, mais la question justement, c'est de savoir comment on réinvente Renault, comment on réinvente l'automobile. Et d'ailleurs, vous avez dit, je suis soutien de Benoît Hamon, pour une raison très simple. Le projet que porte Benoît Hamon dans cette élection présidentielle, que nous portons ensemble, c'est celui qui prépare l'avenir. Vous voyez bien qu'un vieux modèle qui en est à se dissimuler lui-même et finalement à faire un délit pour essayer de se protéger ne marche plus. Et que même si on essayait de protéger artificiellement Renault, on condamnerait cette entreprise quand même. Renault est dans l'histoire une entreprise qui a été très inventive, qui a été capable de sauts technologiques, qui a été capable d'innovation, et il faut renouer avec ce chemin-là.
Le patron de Volkswagen avait démissionné au bout de 3 jours. Est-ce qu'il faudrait que Carlos Ghosn fasse la même chose si c'était avéré ?
Moi, je pense qu'il y a une grosse responsabilité de la part de ces dirigeants qui, en plus, lui tout particulièrement, ont touché des sommes faramineuses d'argent. Des sommes faramineuses pour mettre en danger la population, mettre en danger leurs salariés et même mettre en danger l'entreprise.
Donc il doit partir.
Il y a une irresponsabilité totale. Oui, je pense qu'il faut une nouvelle génération de dirigeants. Je crois que, y compris pour les grandes entreprises aujourd'hui, il faut une nouvelle génération de dirigeants qui sont non seulement capables d'assumer, capables de partager le risque et la rémunération et capables d'inventer l'avenir.
Gilles Blanchard.
Coup dur pour Benoît Hamon, que vous soutenez. L'ancien Premier ministre Manuel Valls ne lui accordera pas son parrainage. Une attitude qui est restée en travers de Benoît Hamon. On l'écoute, c'était sur TF1.
Écoutez, moi je ne me sens pas trahi. Mais sans doute, les électeurs de la primaire se sentent-ils aujourd'hui trahis. En démocratie, le respect de la parole donnée, c'est important. En démocratie, le respect de l'issue du scrutin, c'est important.
Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ?
Je suis pas sûre que ce soit un coup dur, parce que finalement Manuel Valls révèle qui il est, c'est-à-dire que l'organisation de fracturation de la majorité, qui était celle de 2012, d'empêcher François Hollande d'être président de la République, ne pouvait lui bénéficier qu'à lui, puisqu'il ne respecte, comme le dit très bien Benoît, pas du tout les règles du jeu, c'est-à-dire qu'il a participé à une primaire.
Il dit ce qu'il pense en même temps.
Mais qu'est-ce que ça veut dire ?
Ses convictions.
Mais il aurait dû le dire avant. Il aurait dû dire « je peux pas participer à cette primaire parce que je pourrais pas faire la campagne de celui qui gagnera si c'est pas moi ». Ça aurait été plus transparent. Vous savez, moi, j'ai perdu une primaire, sèchement. Et dans ce genre de situation, on a deux options. On peut se taire, si vraiment on n'arrive pas à faire la campagne celui qui a gagné, ou alors on peut faire sa campagne. Mais il n'y a pas de troisième option. Parce que cette troisième option, c'est effectivement une trahison de ses propres engagements. Personne ne l'a contraint, ni à participer à la primaire, ni à s'engager. Il l'a fait librement. Il aurait pu dire, moi je suis le meilleur, je veux être candidat tout seul, et puis c'est tout, c'est pas ce qu'il a fait.
Pas sûr non plus que Benoît Hamon aurait soutenu Manuel Valls s'il avait gagné. Hein. Ça dit l'état du Parti Socialiste. Quoi.
C'est vrai, c'est-à-dire que ça dit l'état de la situation politique. Et l'originalité, c'est que je suis ici ce matin devant vous, écologiste, de toujours, pour soutenir la candidature de Benoît Hamon, qui a gagné une primaire socialiste. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, en fait, il y a une recomposition politique qui est à l'œuvre. Une nouvelle structuration. On voit bien la dérive du candidat François Fillon qui est en train de franchir les limites de la perméabilité avec l'extrême droite. Il y a une forme de recomposition d'un centre droit qui existe. Et puis, il y a la réinvention de la gauche. Et la réinvention de la gauche se fait autour de l'écologie. Parce que ce qui est très intéressant avec Benoît Hamon...
C'est un peu exagéré quand même.
La
réinvention de la gauche se fait autour de l'écologie. Yannick Jadot, qui était candidat écologiste, il y avait 17 000 électeurs à la primaire de l'écologie. Je ne suis pas sûr que l'écologie pèse le courant écologiste pèse à ce point sur le paysage politique.
La question, c'est celle des idées, M. Apathy. Est-ce que Europe Écologie Les Verts a été suffisamment à la hauteur de l'enjeu qu'est l'enjeu du climat, l'enjeu de la santé environnementale ?
La réponse est non.
La réponse est non, bien sûr. Et j'en prends ma part. Est-ce que aujourd'hui, emmener la France vers l'avenir, c'est avoir une industrie qui ne sera pas une industrie polluante et qui du coup sera plus durable ? J'écoutais sur votre antenne il y a quelques heures, je crois, les salariés de Whirlpool qui pour une partie d'entre eux, se tournent vers le Front National. Mais quand on dit, par exemple, comme les écologistes, on va arrêter de gaspiller les produits, et notamment les produits manufacturés. On va faire en sorte de lutter contre ce qu'on appelle l'obsolescence programmée. Et nous allons faire des produits garantis, 6 ans, de façon obligatoire, par exemple. Eh bien, les usines et la production vont rester en France. Et c'est une autre réponse que de dire on va fermer les frontières. Aujourd'hui, le choix, il est intéressant. Il est entre la marche arrière, une vision réactionnaire et du retour à une France, d'ailleurs, un peu qui n'existait pas, et l'invention de l'avenir. L'invention de la France, de nos enfants, de nos petits-enfants, et c'est ça le projet de Benoît Hamon.
Sur l'idée que vous développiez, la gauche va se reconstruire autour de l'écologie. Les deux thèmes forts qu'on a retenus de la campagne de Benoît Hamon, c'est le revenu universel d'existence, qui ne sera d'ailleurs pas universel, et par exemple les taxes robots, mais on n'a pas retenu de proposition écologique de Benoît Hamon.
C'est
donc,
là où vous vous trompez, M. Apathy, c'est que le rapport au travail...
Non, pas du tout.
C'est
pas la réalité.
Le rapport au travail. Le rapport à une société qui va être de plus en plus mécanisée, robotisée, d'où la question de la taxe sur les robots. D'où le mot de Benoît Hamon disant « je ne serai plus jamais socialiste sans être écologiste ». Je crois qu'il a fondamentalement raison, c'est-à-dire que soit on invente et on travaille un autre mode de développement, plus respectueux de la santé. Je vais vous donner un autre exemple, le choix dans le projet de Benoît Hamon de sortir des pesticides. C'est le choix d'un autre modèle agricole, mais c'est un modèle qui respecte les agriculteurs, les paysans, leur santé. Aujourd'hui, c'est eux les plus victimes des cancers liés au travail. Et c'est aussi la capacité justement de se projeter et d'engager la France dans une autre histoire.
Mais après, Mme Duflo, est-ce que c'est pendant une campagne électorale qu'on réinvente la gauche, puisque vous parlez de réinvention de la gauche? Après, la question, c'est celle-là. Est-ce qu'on n'est pas dans le chantier, là, justement, et c'est bien le problème en ce moment?
Mais il y a deux options. Il y a deux options très claires. Il y a proposer un projet et dire voilà où en est la France. Aujourd'hui, c'est une France plus inégalitaire, une France en souffrance. Et voilà ce que serait la France après 5 ans de la présidence de Benoît Hamon, d'une coalition politique de transformation, où il y a un choix marketing, de dire quel président. Mais quel président, ça répond pas à quel projet. Et c'est moi, ce qui m'intéresse dans ce qui est en train d'arriver, c'est de dire la réponse à la crise politique, ce n'est pas une réponse de personne, c'est une réponse de projet. La qualité de Benoît Hamon, c'est qu'il réunit les trois sujets. Il dit ce qu'il va faire, il dit ce qu'il est, et il dit la coalition politique qui va travailler autour de ce projet.
Et cette discussion se poursuit dans une minute. Il est 8h40, Victor Mattet pour l'essentiel.
Aux Pays-Bas, pas de victoire pour le parti populiste de Geert Wilders, deuxième des législatives, avec pour l'instant 20 sièges. Le dépouillement est presque terminé. La victoire revient à la droite du Premier ministre libéral sortant, Mark Rutte, 33 sièges. En France, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Marc Ayrault, félicite les Néerlandais d'avoir enrayé la montée de l'extrême droite. Le Front National salue la progression de Geert Wilders. Les syndicats pénitentiaires dénoncent un manque de moyens avant l'ouverture programmée début avril d'un nouveau site près des Baumettes à Marseille. Près de 200 personnes manifestent en ce moment même devant l'établissement. L'entrée est totalement bloquée. Des bougies allumées devant la stèle en mémoire des élèves et des professeurs tués par Mohamed Merah il y a maintenant 5 ans à Toulouse. Cérémonie hier soir à Sarcelles, où vit une importante communauté juive. Le ministre de l'Intérieur était présent, ainsi qu'Emmanuel Macron. Le candidat d'En Marche en visite à Berlin. Aujourd'hui, une rencontre avec Angela Merkel, preuve que l'ancien ministre de l'économie grimpe dans les sondages. La chancelière allemande n'avait pas voulu le recevoir lors de sa première visite en janvier. Puis en football, Monaco grimpe en quart de finale de la Ligue des Champions. Victoire 3-1 hier soir contre Manchester City, après sa défaite 5-3 au match aller.
C'est Cécile Duflo qui est avec nous ce matin jusqu'à 9h. Question Gilles Bornstein.
Alors on va voir que les choses ne sont pas si faciles que ça parce que Yannick Jadot, l'ancien candidat socialiste, ici même, à votre
écologiste.
Vous voyez que la vie se complique, hein, elle est en chance. Il faut que les journalistes s'adaptent maintenant.
Écoutons Yannick Jadot, on en parlera après.
Ouais. Vous êtes prêt à être candidat à l'Élysée?
Absolument.
Pas d'accord les socialistes?
Je crois que de toute façon, non, il n'y aura pas d'accord avec les socialistes.
Est-ce que vous disiez, je veux qu'il y ait des députés, quand vous les aurez, les députés, si vous n'avez pas un accord avec un grand
parti? Mais vous allez voir qu'il y a des circonscriptions sur lesquelles on est en train d'avancer, sur lesquelles...
Mais vous n'aurez jamais d'élection seul.
Vous allez voir.
Et Yannick Jadot nous disait aussi, mais il faut un candidat écologiste à cette élection. En fait, il ne faut jamais croire les responsables politiques. Il n'y a pas de parole politique fiable.
Oui, mais moi, je
tout s'adapte aux circonstances. On le voit avec
François
Fillon et on le voit avec Yannick Jadot.
Monsieur Apathy, je l'ai dit et je l'ai dit pas devant vous, puisque moi j'ai participé aux réunions autour de Yannick Jadot. J'ai dit pour moi, la seule raison pour laquelle il n'y aura pas de candidat écologiste à l'élection présidentielle, c'est qu'il y aura un candidat écologiste. Et donc, il ne s'agit pas d'un accord,
trop facile,
justement.
Ça.
Non, c'est vrai.
C'est juste la ressource trouver, de votre
Monsieur
esprit.
C'est un peu de la rhétorique.
Pas du tout. Trouver un point de désaccord entre le programme de Benoît Hamon et le programme d'Europe Écologie Les Verts.
Mais alors, il ne faut pas dire pendant la primaire. Oui, voilà. Il ne fallait pas dire devant.
On ne pouvait pas s'en rendre compte avant.
Parce que la candidature de Benoît Hamon, ce qu'il a porté pendant la primaire, est très différent de ce qu'a porté Manuel Valls.
Pourquoi vous avez été candidate?
Fabienne a raison. Vous l'aviez lu, le programme de Benoît Hamon, avant.
Mais d'ailleurs, vous savez, pendant la primaire. Et moi, j'ai exprimé ma surprise, je peux vous le dire de façon très précise, au moment où il donne une interview à Reporter. Reporter qui est un pure player spécialisé sur la question d'écologie, que j'invite tout le monde à lire sur Internet. Il a donné une interview qui, moi, m'a surprise. J'ai trouvé que c'était très osé de la part d'un candidat étiqueté socialiste de dire toutes ces choses sur la remise en cause d'un mode de développement, sur une autre forme de croissance, sur les questions des perturbateurs endocriniens. Enfin, il couvre l'intégralité du champ des écologistes. Mais je le redis, monsieur Apathy, trouvez un point de désaccord entre le projet de Benoît Hamon et le nôtre.
Je ne le chercherai pas. Mais ce qui me surprend, c'est que quand vous vous engagez dans la primaire des écologistes, promis juré, il y aura un candidat d'Europe Écologie Les Verts.
Je vais vous dire une chose, il y avait un désaccord entre Yannick Jadot et moi, d'ailleurs, ce désaccord l'a fait gagner. Il a dit, moi je ne suis pas candidat pour gagner et pour devenir président de la République. Moi, j'étais candidate justement en voulant rompre avec l'idée que les écologistes sont condamnés à faire de la figuration dans une élection présidentielle. Mais c'est pour ça que je suis à l'aise pour défendre devant vous le programme de Benoît Hamon. Je le partage à 98% et je suis une écologiste. Et je ne suis pas une écologiste réputée pour ne pas avoir des convictions affirmées sur nombre de sujets, que ce soit de l'encadrement des loyers, la fin des pesticides, le bio dans les cantines, le respect des animaux, par exemple, cette question de la dignité animale, qui est une question assez fondamentale, qui intéresse beaucoup de monde, qui progresse dans la société, et il y a encore un scandale qui a été révélé ce matin. Sur tous ces points-là, on est raccord avec ce que porte Benoît Hamon, et pas seulement parce qu'il a fait un choix tactique, au contraire, il a fait un choix de fond, il a fait un choix de conviction, et l'événement politique. Et vous savez, c'est un peu comme une tapisserie ce qui nous arrive en ce moment. Quand vous êtes le nez sur une tapisserie, vous voyez des fils rouges et des fils bleus. Quand vous reculez un peu, vous voyez des formes, et puis tout d'un coup, vous voyez l'ensemble d'une scène. Et aujourd'hui, vous êtes le nez en disant c'est un candidat socialiste et vous n'avez pas de candidat écologiste.
On va pas assez regarder les tapisseries avec Jean-Michel. Ça
alors,
ça.
Attendez, je termine ma démonstration. Reculons-nous. Oui, il est en train de se passer un événement politique, et oui, c'est à l'occasion d'une campagne présidentielle. C'est d'autant plus compliqué. Mais oui, il y a une forme de recomposition politique et de défense d'un nouveau projet, un projet qui allie toute l'histoire de la gauche, la transformation sociale, la justice sociale, et le mieux de l'écologie. C'est-à-dire cette idée que, en fait, on ne fera pas de redistribution des fruits de la croissance dans un monde qui n'a plus de croissance. Et c'est ça la grande transformation. Et effectivement, on lit ça difficilement quand on est dessus.
Si on peut poser une question, oui. D'accord. Alors, en dépit de tout ce que vous dites, gagner justement, ça n'a pas l'air gagné pour Benoît Hamon. Comment expliquez-vous que sa campagne patine ?
Moi, je ne crois pas que sa campagne patine. Je pense qu'effectivement, il ne rentre pas dans les codes. Non, je vais vous dire la vérité. Mais je pense qu'il y a il y a toujours des moments de commentaires. Et je renvoie à une chronique qui a été faite par votre collègue qui se trouve à votre droite sur les sondages.
Guy Birenbaum.
Et oui, qui a raconté que les sondages sont une sorte d'aliment permanent.
C'est vrai, il l'a dit, je l'ai entendu.
Moi,
aussi.
Je crache pas sur les sondages, ça n'est pas manipulé, c'est pas des mensonges, mais ça s'auto-alimente. C'est-à-dire que, en fait, vous dites le vote utile.
Enfin,
c'est
on sent pas une grande. Il n'y a pas que les sondages, on sent pas une grande dynamique autour de lui.
Une salle, je ne sais pas où, avant qu'il parte en Outre-mer, à moitié pleine,
Au Havre.
Il y a des indices qui montrent que cette campagne
n'est pas
fabuleuse.
Vous savez, enfin, monsieur Apathy, je vais révéler des secrets de fabrication politique. Vous voulez faire une salle blindée, vous prenez une salle de 250 places. Ils étaient, à ma connaissance, 1500. Vous prenez une salle de 500 places et vous dites on a refusé 2/3 des gens. Donc c'est absurde cette histoire de salle pleine ou de salle vide. Et par ailleurs, j'ai vécu des campagnes avec des grosses mobilisations militantes. Vous savez, pendant la campagne d'Eva Joly, il y avait beaucoup de monde. Elle était extrêmement appréciée.
Quelle inflexion proposez-vous pour sa campagne ?
Moi, je propose pas d'inflexion, au contraire. Je pense
tout
qu'en
va
fait,
bien.
Non, c'est pas tout va bien. Bien sûr que c'est compliqué.
Alors, si tout va pas bien, faut changer.
En fait, je vais finir ma phrase.
Allez-y.
Ça va être plus simple. Je dis pas que tout va bien. Je dis qu'on est dans un moment compliqué, justement parce que il faut réexpliquer à ceux et celles qui étaient déshabitués de croire en la gauche, qui ont vécu 5 ans d'un quinquennat où finalement François Hollande n'avait pas fait de promesses extraordinaires, mais il ne les a pas tenues et il a finalement abdiqué devant une vision.
Si, il y avait quand même des promesses extraordinaires. Mon ennemi, c'est la finance. Ça nous a tous un peu étonnés, non ?
Non, c'était pas extraordinaire, c'était nécessaire. Enfin, on vit quand même dans un pays, aujourd'hui, si vous regardez sur l'ensemble des pays européens, les inégalités aggravent. C'est-à-dire que les 10% les plus riches deviennent de plus en plus riches. Et notamment parce qu'on est dans un système d'un capitalisme qui n'est pas seulement...
Il y avait des promesses, mais elles n'ont pas été tenues.
Oui, je le dis. Et donc, il y a une forme de grande déception à l'égard de la gauche, à l'égard de la gauche qui a plus de responsabilités. Moi, ça ne me dérange pas. Vous savez, cet argument sur les électeurs de gauche sont toujours insatisfaits. Ils ont raison. Ils veulent pas le statu quo. Ils veulent du changement. Ils veulent qu'on améliore la situation. Ils veulent que nos enfants vivent mieux. Et ils ont raison. Et donc, je crois que la force de Benoît Hamon, c'est la constance de ses positions. Et c'est aussi justement de ne pas peut-être rentrer dans tous les exercices convenus de la vie politique française.
Alors justement,
et du marketing politique.
Eh bien justement, je voudrais vous faire écouter un extrait d'un propos de Benoît Hamon. On vous demandera ce que vous pensez de cette formulation. C'était sur l'émission politique sur France 2.
Des programmes comme celui d'Emmanuel Macron, tous ces projets-là, partout en Europe, ont fait prospérer l'extrême droite. Aujourd'hui, je considère que le projet d'Emmanuel Macron, c'est le marchepied du Front National.
Est-ce que vous le diriez de la même manière ?
Ça, c'est pas du marketing politique, ça. C'est la formule, là.
Non, ça, c'est une analyse. On peut être d'accord ou pas d'accord. Est-ce que...
Vous êtes d'accord ?
Mais alors, sur le fond.
Oui, parce qu'il y a un vrai sujet sur le fond.
C'est un marchepied de l'extrême droite, Emmanuel Macron ?
Je crois que ce qui est le marchepied de l'extrême droite, c'est le renoncement. J'en reviens à ce que
c'est
j'écoutais.
C'est pas la même chose.
Oui, non, mais je le dis. Et le renoncement, c'est dire, en fait, on peut rien changer. Sur le projet d'Emmanuel Macron, moi j'ai une difficulté, c'est que je l'écoute avec attention, j'ai du respect pour la personne, pour l'opération politique qu'il a menée, parce qu'il est quand même nos limites. Moi je me souviens, quand il a créé En Marche, il était ministre, c'était pour soutenir François Hollande. Ça a été un objectif premier d'empêcher que François Hollande soit candidat, ensuite qu'il
c'était
soit lui candidat.
C'était pas tout à fait dit comme ça quand même.
Ah, bien, ah si, ah, bah, alors si, même chez vous, je crois que c'est sur France 2 et sur France Info que ça a été dit de cette manière.
Marche-pied de l'extrême droite, c'est quand même...
Donc je continue. Une fois qu'on dit, bah voilà, les choses sont comme ça, les inégalités vont rester, de toute façon, vous aurez moins de retraite, c'est fichu. C'est-à-dire que ce qu'on a pu faire avant, bah c'est terminé, c'est plus comme ça. Mais en même temps, les plus riches continuent de s'enrichir. Oui, je pense que ça crée une rage terrible, une vraie rage terrible. Sur l'Europe, c'est pareil. Moi, je suis une écologiste, je suis une européenne convaincue, fédéraliste. Mais je ne peux pas m'empêcher de penser que quand vous organisez au sein de l'Union européenne la concurrence entre les salariés, quand vous avez des entreprises qui ont pignon sur rue, sur Internet, qui expliquent aux chefs d'entreprise, si vous délocalisez en Roumanie, ce sera moins cher, ils ont moins de congés, mais vous n'avez aucune taxe et vos camions traverseront l'Europe en deux jours, oui, on peut avoir la rage. Moi, je comprends ça. Je comprends le désarroi des salariés de Whirlpool. Je comprends ceux de la CETA avant. C'est évidemment, je comprends les salariés des abattoirs qui voient des animaux élevés en Bretagne qui vont jusqu'à l'autre bout de l'Europe pour aller dans des abattoirs. C'est absurde. Et c'est absurde écologiquement, c'est absurde socialement. Et donc, de dire que tout est bien comme ça et qu'on pourra rien changer et qu'il faut que les banques fonctionnent de mieux parce qu'elles ont un risque qui est plus important que le reste, non, pour moi, la priorité, c'est l'humain. La priorité, c'est l'avenir de nos enfants, de nos petits-enfants, de la planète. Et c'est pour ça que je défends non seulement la candidature, mais surtout le projet qu'il va présenter ce matin et qui est fondamentalement écologiste, monsieur Apathy de Benoît Hamon.
On y revient dans une minute. Vous pourrez répondre, Jean-Michel Apathy, à 8h50. Voici Victor Maté.
Ils se disent prêts à rester 10 jours sur place s'il le faut, le temps que la préfecture régularise leur situation. Des salariés sans papier du marché de Rungis, des Maliens, des Sénégalais en grande majorité, ont entamé une action sur place ce matin, action soutenue par la CGT. Lui se dit prêt à aller jusqu'à la Cour suprême. Donald Trump face à un nouvel échec de son fameux décret anti-immigration. Un juge fédéral d'Hawaï vient de bloquer la nouvelle version du texte pour éviter, je cite, un préjudice irréparable. Lui promet que le gouvernement des Pays-Bas entendra encore parler de lui malgré une perte. Le candidat d'extrême droite Geert Wilders est devancé par le premier ministre libéral sortant Mark Rutte aux législatives. 20 sièges contre 33. Pour l'instant, les Verts, eux, sont troisième. Et puis pour la deuxième fois en 3 ans, Monaco est en quart de finale de la Ligue des champions de football. But de Mbappé, Fabinho et Bakayoko hier soir pour une victoire 3-1 après la défaite à l'aller 5-3.
Cécile Duflot avec nous encore jusqu'à 9h dans l'émission politique de France Info. Jean-Michel Apathy.
Emmanuel Macron toujours, il a dit hier qu'il a lu le programme des écologistes et il dit quand je suis arrivé à la ligne sur le nucléaire, ça m'a suffi. Et vous avez réagi sur Twitter en le traitant de gros lourd, je crois.
Non, que vous qui fait des risettes au panda.
Oui, ça c'est parce qu'il est allé voir Pascal Canfin, directeur du WWF, et qu'il a dit à quel point la biodiversité c'était important, à quel point il y était attaché, c'était un peu l'outing écolo. Et puis,
non, il est pas sincère.
Attendez,
quand il dit ça.
Ah bah alors ça, bonne question. Là, il était chez les chasseurs.
Vous avez l'air de dire qu'il l'est pas.
Et on lui pose la question, lui disant oui, mais alors vous êtes soutenu par des écologistes, et il répond, mais de façon extrêmement méprisante en fait, en disant ouais c'est bon les écolos, j'ai lu leur projet, je me suis arrêté à la ligne sur le nucléaire. Bah il aurait dû lire, parce qu'aujourd'hui le nucléaire c'est un truc. On parlait du diesel et du risque sur Renault. Le risque de s'obstiner dans le nucléaire, c'est de ruiner EDF, de mettre en faillite EDF. C'est pas un petit risque quand même. Son ancien directeur financier l'avait dit. Donc je pense qu'aujourd'hui, on peut pas traiter ces questions avec le mépris. Mais comme je vous le disais, en fait, Emmanuel Macron, je sais pas s'il a deux cerveaux, mais il est capable de dire un point et son contraire sur beaucoup de sujets.
Et ça en fait un gros lourd.
Ah bah, je trouve que faire comme Nicolas Sarkozy avec la FNSEA au Salon de l'Agriculture, qui avait fait le Grenelle de dire l'écologie, ça commence à bien faire, avec leurs normes là, les écolos, ils nous emmerdent, c'est la même façon de faire. Donc on le fait avec la FNSEA, on le fait devant les chasseurs, c'est une méthode de com, ok, très bien. Et s'il faut reconnaître l'immense habileté communicationnelle séductrice d'Emmanuel Macron, très bien. Le talent marketing... Moi, vous savez, j'ai fait une grande école de commerce au début des années 2000 et j'ai appris ce qu'on appelle le marketing segmenté. C'est-à-dire que vous vendez pas le même produit de la même manière à telle et telle personne. Typiquement, Emmanuel Macron va sur Mediapart et il explique que finalement, la légalisation du cannabis, il est ouvert. Moi, je regarde Mediapart, je me dis, ah, quand même, ok, je suis pas d'accord sur plein de trucs, mais là-dessus, il est un peu moderne. Et puis, il donne une interview au Figaro et là, il dit, hors de question, la dépénalisation.
Ah, vous le soupçonnez d'une absence totale de sincérité?
Moi, je voudrais savoir qu'est-ce qu'il pense. Et je peux vous donner... Mais alors maintenant, c'est pas deux exemples, c'est 10 exemples. Sur
selon
la PMA,
vous, il n'y a pas de colonne vertébrale chez Emmanuel Macron. On vous écoute avec attention. Hein, le portrait que vous dessinez d'Emmanuel Macron est assez sévère. Hein.
C'est pas sévère. C'est, pour le coup, je vous assure, je l'écoute. Moi, j'aime la politique. Je crois que le débat politique est sain et serein. Je pense que la droite, par exemple, mérite mieux que François Fillon. Que l'existence d'un courant conservateur, républicain, ça fait partie de l'histoire politique. Je ne partage pas ces convictions-là.
Mérite mieux qu'Emmanuel Macron.
Mais je ne sais pas s'il est de gauche. D'ailleurs, il ne le sait pas. Il dit d'ailleurs qu'il est de gauche et droite. Mais en fait, il dit les deux choses. Donc, si vous bouchez une oreille, vous êtes d'accord. Si vous ouvrez l'autre oreille, vous n'êtes plus du tout d'accord.
Mais si vous bouchez les deux, vous n'entendez rien.
Oui, mais après... Je vais vous donner un autre exemple, monsieur Apathy. Je vous ai vraiment écouté avant de venir et il se trouve que je vous ai écouté. Et on expliquait à quel point il avait réussi sa séquence régalienne. Donc, je vais visiter un commissariat, je vais à la cérémonie en hommage à Sarcelles et ensuite je vois Angela Merkel. Là, ça fait président. Ça fait président. Mais je pense
c'est pas faux.
Elle n'a pas invité Benoît Hamon.
Elle n'a pas encore vu Benoît Hamon.
Oui, mais la question, c'est de savoir où est-ce qu'on emmène la France. Est-ce qu'on l'emmène ensemble ou est-ce qu'il y a casting pour président? Voilà, c'est un vrai sujet.
Et, donc,
et peut-être que le casting pour président va marcher.
Voilà,
peut-être que ça va marcher.
C'est pas très sérieux, quoi, Emmanuel Macron, d'après vous.
Non, je dis pas que c'est pas sérieux, je dis qu'est-ce qu'il pense.
Peut-être que ça va marcher, que vous serez obligé de voter pour lui au second tour de la présidentielle.
S'il est face à Marine Le Pen, à M. Guérin-Boom, je voterai pour n'importe qui face à Marine Le Pen. J'invite tous les gens qui nous écoutent à lire le livre de Marine Tondelier, qui est élue à Hénin-Beaumont et qui raconte ce que c'est les cadres du FN, Bruno Bille, des compagnies, au pouvoir. C'est la menace permanente sur les fonctionnaires. Ils surveillent les likes Facebook des fonctionnaires. Ils menacent. C'est ça, d'ailleurs, et c'est ce que Marine Le Pen elle-même a dit quand elle dit on a noté les noms des fonctionnaires qui. Voilà. Donc, le fascisme rampant. C'est ça, ça ne peut pas se relooker, ça spécule sur la crise et effectivement sur le désastre politique, sur l'idée que la droite, la gauche, tout ça c'est pareil, qu'il n'y a plus de projet. Oui, ça fait progresser le Front National et voilà. Et d'ailleurs, ce qui s'est passé aux Pays-Bas est intéressant. La force qui n'est pas du tout à la hauteur de ce que certains avaient annoncé, et c'est une bonne nouvelle, c'est l'extrême droite. Ceux qui progressent, ce sont les écologistes. Ouais. En Autriche, c'est un candidat écologiste qui a été longtemps président des Verts autrichiens, qui a gagné contre le candidat du Front National. Je note qu'on n'en parle pas, qui fait les gestes de réconciliation à l'égard des réfugiés, qu'il est en train de réparer son pays.
Il
et le désastre
qu'il y a
dans son pays.
Jadot renonce.
Mais il fallait qu'il y ait un candidat écologiste, monsieur Apathy. Vous allez répondre à ma question. En quoi
répondez aux questions de cette
émission.
Je suis pour qu'on change les règles. Je suis pour qu'on arrive à ne pas justement s'obliger à se couler dans les règles de l'élection de la 5e République.
La révolution, c'est pour juste après 9h. J'ai pas une question. Moi, je voudrais vous parler du nucléaire.
Oui.
Et pour ça, je voudrais qu'on regarde un extrait du 20h de France de hier. Ce sont des habitants qui habitent près de la centrale du Bugey qui répondent.
Mais vous voulez mettre quoi à la place? Des éoliennes qui sont pas belles?
Même si j'habite à côté, moi je me sens rassurée où j'habite, je sais pas toi.
Ouais, moi aussi c'est pareil.
Ça peut être la centrale, ça peut être une voiture qui nous écrase si on pense à
pour
tous les dangers.
Pour vous c'est du même ordre, pour vous c'est la même chose.
Le nucléaire c'est pas ce qui va déterminer votre vote.
Pas forcément non.
Ça va pas être mon cœur de cible par rapport à mon vote, c'est pas ça qui va déterminer mon vote aujourd'hui.
Voilà, la sortie du nucléaire n'est pas vécue comme une priorité. Et par ailleurs, les Échos nous révélaient la semaine dernière que sortir du nucléaire, ça coûterait 200 milliards d'euros, ce qui est beaucoup d'argent.
Deux choses. Un, vous interviewez des gens qui vivent à côté d'une centrale nucléaire. On entend les enfants.
La rubrique s'appelle « Dans ma rue », oui.
Oui, bah heureusement que les gens qui vivent à côté de la centrale nucléaire, ils n'ont pas l'impression d'exposer leurs enfants à un risque délirant. Personne ne ferait ça. Et on a inculqué le déni en France. Vraiment, on est un pays, avec le Japon, le plus nucléarisé au monde. Personne dans notre pays ne vit, si je le dis de tête, vous pourrez me fact-checker, attendez.
Quand on ne pense pas comme vous, c'est parce qu'on a inculqué le déni, c'est un peu facile.
Attendez, c'est pas quand on pense pas comme moi, c'est pas la question. Moi aussi, je vis à moins de 230 km d'une centrale nucléaire, je vis à Paris, et il y a une centrale nucléaire juste à la limite de l'Île-de-France. Je le connais, ce risque-là. Simplement, la question, c'est que c'est pas comme une voiture qui explose dans la rue, une centrale nucléaire. C'est un risque, dans le temps et dans la durée, incommensurable. Est-ce qu'on peut éviter ce risque? Oui. En engageant la France vers une France 100% renouvelable à l'horizon 2050, c'est possible. La question, c'est celle du choix politique. Est-ce qu'on fait ce choix-là, qui sera moins coûteux, ou est-ce qu'on s'obstine, comme avec le diesel, jusqu'à l'ultime limite? Eh bien, je crois que prendre ce virage-là, c'est un virage plus riche en emplois, c'est un virage plus intelligent, c'est un virage plus sûr pour l'ensemble de nos populations. C'est ça le débat, et c'est un débat de fond intéressant.
Merci,
oui, mais on n'a plus le temps, c'est dommage. Pour
merci Cécile Duflo d'être venue répondre à nos questions et d'en avoir posé en s'excuse.
J'attends quand même de savoir la divergence entre le programme de Benoît Hamon et celui des écologistes.
J'y réfléchis, merci.
Allez, on se retrouve demain. Merci à tous.